Le Seigneur bénisse. Allons prier. Père céleste, Dieu tout-puissant, à deux ou à trois, nous sommes assemblés. Un petit peu plus, nous sommes venus afin de pouvoir partager certaines choses qui peuvent ainsi affermir notre foi. Dieu des difficultés, Dieu des l'adversité à tout ce dont nous devons traverser. Nous te remercions pour toutes choses. Maintenant, nous te demandons de nous honorer, Père, de ta présence et que tu puisses nous inspirer, que nous puissions passer un moment qui nous soit bénéfique. Pardonne nos péchés et instruis-nous, exhorte-nous. Et bénis tes enfants. Beaucoup de choses peut-être ont été prévues aujourd'hui, que tu sois également avec tous ceux-là, avec chacun. Que ta grâce nous soutienne. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Amen. Ce soir, nous allons dans un petit texte, on ne fera pas longtemps. Dans Hébreux chapitre 3. Verset 12 à 14. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. Mais exhortez-vous les uns les autres, chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché. Car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement jusqu'à la fin l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'assurance que vous aviez, que j'avais au commencement. Nous nous en souvenons. Avec le zèle du début, aucun de nous pouvait douter de l'enlèvement. Maintenant que beaucoup de choses se sont passées, selon que nous avons lu, nous avons dit là, il y a quelques jours que le pays que le Seigneur nous a donné est un pays de montagnes et de vallées, n'est-ce pas? Où nous avions à grimper et à descendre, traverser dans les vallées, au travers des vallées, au travers d'événements joyeux, tristes, événements encourageants, des événements décourageants. Maintenant, l'assurance que nous avions au commencement, l'avons-nous encore toujours aujourd'hui? Quand Josué a distribué sous la conduite du Saint-Esprit, quand il a distribué les territoires, il a distribué le pays à chaque tribu avec chacune sa portion. Par exemple, si on prend le chapitre 12 de Josué au verset 7, nous disons « Voici les rois que Josué et les enfants d'Israël bâtirent de ce côté-ci du Jourdain à l'occident, depuis Baal-Gad dans la vallée du Liban jusqu'à la montagne nue qui s'élève vers Séir. Josué donna leur pays en possession aux tribus d'Israël, à chacune sa portion, dans la montagne, dans la vallée, dans la plaine, sur les coteaux, dans le désert et dans le midi. À chacune sa portion. Chacun a ses montagnes, chacun a ses vallées, chacun a ses plaines, chacun a ses déserts, toujours sous la conduite du Saint-Esprit. Et au travers des événements par lesquels nous devons passer, cette assurance que nous avions au commencement, nous devrions toujours continuer à l'avoir aujourd'hui. Mais seulement, sur base de quoi avions-nous cette assurance? Cette assurance que nous serions enlevés. Oui. Et ici, l'apôtre dit, dans Romains chapitre 8, lui dit qu'il a l'assurance. Il a l'assurance que Dieu l'aime. Et il a l'assurance qu'il aime Dieu. Quoi qu'il lui arrive, nous savons que nous aimons Dieu parce que lui nous a aimés le premier. C'est un Jean 5 qui nous dit ça. C'est à cela que nous savons que nous l'aimons. Parce que lui nous a aimés. L'apôtre dit, verset 35, « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Sera-ce la tribulation ? Ou l'angoisse ? Ou la persécution ? Ou la faim ? Ou la nudité ? Ou le péril ou l'épée ? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il dit, car j'ai l'assurance. Il a cette assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ce qui nous arrive aujourd'hui, ni les choses qui vont nous arriver, ni les choses à venir. Quoi qu'il m'arrive demain, je ne perdrai pas cette assurance. Ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire que le diable ne peut pas venir me dire un seul jour que Dieu ne m'aime pas, quoi qu'il m'arrive. Je lui ai demandé des choses, il ne me les a pas données, mais je sais qu'il ne les a pas données parce qu'il m'aime. Il m'a donné ces choses-là parce qu'il m'aime. Ce qu'il ne m'a pas donné, c'est pour mon bien. Parce qu'il dit, si nous demandons du pain à notre Père, il ne nous donnera pas un serpent ni un scorpion. Il y a des choses que nous lui demandons qui sont réellement des serpents et des scorpions qu'il refuse de nous donner. On doit être assuré de ce fait que Dieu nous aime. Quoi qu'il arrive, que nos prières aient été entendues ou pas, nous avons cette assurance que Dieu nous aime. Et cette assurance est à maintenir jusqu'à la fin. L'apôtre nous dit, il faut, dans Hébreux, il faut tenir ça fermement et pas de manière lâche, de telle manière que moindre choc, ça tombe. Mais tenir ça de manière ferme. Un choc peut arriver, mais je tiens toujours cette assurance, malgré le choc. Jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce que on n'est couronné qu'à la fin de la course. On n'est jamais couronné au début de la course. Au commencement, non. Nous sommes couronnés à la fin. Paul dit à Timothée, 2 Timothée 4, course peut avoir été difficile, éprouvante, mais il y a une couronne qui vous est réservée. 2 Timothée 4. Verset 5. Mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. C'est quelque chose d'une grande valeur, ce ministère que tu as, Timothée. Remplis-le bien. Car pour moi, je sers déjà de libation et le moment de mon départ approche. Le fait que moi, Paul, je sois enlevé de la course ne doit pas t'enlever à toi, Timothée, ton assurance. Paul était un peu son père spirituel à Timothée. Il lui dit, j'arrive à la fin, mais malgré que moi j'arrive à la fin, continue à bien remplir ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation et au moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. La foi est une ferme assurance. Dites amen à ça. J'ai gardé la foi, malgré tout le combat que j'ai combattu, je ne l'ai pas perdu. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, Timothée, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Beaucoup perdent de leur zèle avec tout ce qui arrive, mais l'enlèvement n'est pas, la promesse de l'enlèvement n'est pas enlevée. Dieu n'a pas effacé cela de sa parole. Ça continue à être, c'est toujours écrit. Dieu n'a demandé à personne d'enlever cela. Le commencement, Dieu ne tient pas tellement compte du commencement. Ce qui intéresse Dieu, c'est la fin. Vous savez, le bandit à la croix, si Dieu avait tenu compte du commencement chez lui, je crois qu'il aurait eu des problèmes. Amen. Et vous connaissez la parabole des ouvriers qui étaient engagés. Il y en a qui ont fait 6 heures de travail, d'autres 5, 4, 3, 2, 1, mais tous ont eu le même salaire. Dieu a voulu que ça soit ainsi. Il y en a qui sont venus vers la fin de la journée. Il n'y avait plus grand-chose à faire, mais ils avaient quand même la couronne. Peut-être que nous, nous sommes venus vers la fin. Il y a peut-être plus grand-chose à faire. Il y a beaucoup de héros de la foi qui sont passés avant nous. Mais malgré tout, la même couronne nous est réservée également. Et nous avons cette assurance-là que Dieu ne nous a pas menti. Nous avons cette assurance que c'est la vérité et notre attente ne bouge pas d'un millimètre. Nous continuons à l'attendre comme nous l'attendions au commencement. Nous voyons le jour s'approcher. Nous savons qu'un de ces jours, il viendra. Rien ne peut nous ébranler. C'est le sage, l'Ecclésiaste, qui a dit dans Ecclésiaste 7, il dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Mieux vaut la fin d'une chose, parce que c'est à la fin que les couronnes sont distribuées. Et pour tous ceux qui auront aimé son avènement, à propos des avènements, à propos de son avènement, nous savons, il y avait les 10 vierges qui attendaient. Ils attendaient, elles attendaient avec cette assurance qui viendra. Elles sont restées vierges jusqu'à ce qu'il vienne. Elles ont toutes bien commencé. Toutes avaient leur lampe allumée. Et c'est un peu le cas dans les assemblées. Quand ça commence, tout le monde a sa lampe allumée et bien allumée. Le zèle y est. Mais au fur et à mesure que vous progressez, vous évoluez dans les jours, certaines lampes commencent à s'éteindre. Sans pour autant qu'il fasse du mal, mais certaines lampes commencent à s'éteindre. Lassées peut-être d'attendre. Mais nous ne voulons pas que vous soyez lassés. Nous ne voulons pas que vous en soyez fatigués. L'enlèvement est une réalité. Matthieu 25. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria: voici l'époux allé à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages: donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Elles avaient toute l'assurance d'être enlevées. Mais certaines ont fini par voir, or c'est en pleine nuit, au milieu de la nuit, verset 6 nous dit, c'est au milieu de la nuit. Certaines n'avaient pas suffisamment d'huile. Vous savez, l'huile qui représente le Saint-Esprit ne connaît qu'une chose. Regardez on va prendre dans Jean, chapitre 1er. Verset 25. Les pharisiens posèrent encore cette question à Jean. Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es pas le Christ, ni Élie, ni le prophète? Jean leur répondit: moi, je baptise d'eau. Mais au milieu de vous, il y a quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui vient après moi. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Ces choses se passèrent à Béthanie au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi, vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. » Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il soit manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Jésus étant la parole, il est la manifestation en chair de la parole. Et moi, je ne suis pas la parole, peut-être une partie de la parole, mais pas la parole de Dieu. Christ est la parole de Dieu. Quand moi je vais me faire baptiser chez Jean, l'Esprit pouvait descendre, mais il ne s'arrêtait pas sur moi. Il ne demeurait pas. Il venait, moi je ne suis pas comme un agneau, lui il est l'agneau, n'est-ce pas ? Moi, je ne suis pas l'agneau, sauf dans une nouvelle naissance, je peux être une brebis, je peux devenir une de ces brebis, mais l'Esprit pouvait descendre et puis partir. Et Jean, chaque fois qu'il baptisait, il regardait. Il regardait, Pierre est venu, il a baptisé Jean, l'Esprit est peut-être descendu et puis l'Esprit est reparti. Mais quand Christ est venu, l'Esprit est venu, il est resté sur lui. Et tant que l'Esprit, tant que Christ était là, l'Esprit ne l'a jamais quitté. Il a toujours été, partout où il allait, le Saint-Esprit était sur lui, était en lui. Il est même parti dans le désert pour être éprouvé et il a été conduit par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui l'a conduit en plein dans son, dans Matthieu 4, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. L'épreuve qui lui est arrivée, c'est le Saint-Esprit qui l'a conduit à avoir cela. Vous et moi également, les épreuves par lesquelles nous passons, si nous sommes baptisés du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui nous y conduira. Et c'est Dieu lui-même, comme on l'a vu avec Josué, Josué, n'est-ce pas, par inspiration, a donné à chacun son territoire avec ses facilités, ses difficultés. Et nous avons chacun nos facilités et nos difficultés. Mais à chacun, Dieu nous fait la grâce de passer par Christ, comme il dit, comme Paul l'a dit, nous l'avons lu, il dit, par toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Nous avons cette assurance dans la mesure où Christ a versé son sang. Christ lui-même a dit, ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Vous aurez beaucoup de tribulations, mais ne craignez pas, j'ai vaincu le monde. Alors, ces vierges, l'huile vient à manquer. Que s'est-il passé ? C'est que quelque part, l'esprit qui suit la parole, quelque part, elles ont oublié la parole. Il y a peut-être eu un doute qui est venu. Comme les enfants d'Israël, selon Hébreux, quand nous avons lu, on dit aujourd'hui, tant qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est le jour favorable. Hein. Hébreux 3. Exhortez, verset 13, exhortez-vous les uns les autres chaque jour. Chaque jour. C'est important. Aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui. Aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la séduction du péché, car nous sommes devenus participants de Christ, pourvu que nous retenions fermement, dont nous restons participants de Christ, tant que nous retenons fermement et jusqu'à la fin, sans lâcher, l'assurance que nous avions au commencement. Pendant qu'il est dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Qui furent en effet ceux qui se révoltèrent après avoir entendu sa voix, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse? Comme on l'a dit hier, n'est-ce pas? Moïse n'a pas pu faire entrer les enfants d'Israël dans le pays promis. Il n'a pas même pu entrer lui-même. Mais Christ est celui qui nous fait entrer par le Saint-Esprit. Donc, ces vierges, il y a des choses qui sont arrivées, certainement, des doutes. Elles ont éprouvé des doutes, peut-être, quelque part, qui a fait que l'huile qui vient oindre la parole, l'huile s'en était allée. Et dans le temps où nous vivons, il y a beaucoup de choses qui ont tendance à faire de sorte que nous sortions de la parole. Ce que je voudrais ici ce soir, c'est vous montrer que nous avons intérêt pleinement à avoir entièrement confiance en cette parole. N'en doutez pas une seule seconde. Cette parole est la vérité. Parce que moi, je vous raconte, mais ce qui est écrit. 1 Timothée 4. S'il nous a promis un enlèvement, ne nous agitons pas. L'enlèvement viendra. Pourquoi devons-nous nous agiter? 1 Timothée 4. Verset 8. Exerce-toi à la piété. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine, c'est certain et entièrement digne d'être reçue. Amen. Nous travaillons en effet, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, surtout des croyants. Vous qui faites confiance en cette parole, vous n'avez pas été ébranlé quand vous avez appris que, qui ça, Billy Paul, Dieu l'a repris. Vous ne vous êtes pas ébranlé parce que la Bible ne nous disait pas que Billy Paul allait être vivant, n'est-ce pas, tant que Los Angeles n'était pas encore englouti dans l'océan. La Bible ne nous le dit pas. Il ne faut pas prendre ces choses-là qui véhiculent au milieu de nous. Ce sont des choses qui ont tendance à nous enlever notre assurance. Comme cette histoire de l'année 77, ça a causé beaucoup de dégâts. Ça a été véhiculé parmi les croyants et beaucoup de croyants ont été ébranlés. Parce que l'année est passée, finalement, l'enlèvement tant attendu n'a pas eu lieu en ce moment-là. D'autres, ici beaucoup plus près, ont été ébranlés parce que Dieu a repris le frère Franck, qui pour beaucoup, lui aussi, devait être vivant. Quelqu'un m'a envoyé la vidéo d'un prédicateur au Congo, comme il a diffusé ça partout, c'est le frère Kabasele du Congo, François Kabasele. Qui demande pardon à tous les gens à qui il a prêché ça. Qui leur demande pardon parce qu'il leur a dit que l'enlèvement trouverait frère Franck vivant en chair. Et voilà que frère Franck est parti. Tout ça, maintenant, tous ceux à qui il a dit ça, tous ceux à qui il a prêché ça. Qu'est-ce qui prouve que tout le monde recevra, entendra la réparation que lui vient de faire? Peut-être qu'il y en a qui sont déjà morts avant. D'autres ont peut-être déjà quitté, ils sont partis. Et lui fait diffuser ça. Ça n'arrivera plus. Donc, ce qu'il y a, nous avons quand même intérêt. Lorsque nous avons la responsabilité, exhortez-vous les uns les autres, comme il nous est dit. Lorsque nous nous exhortons, limitons-nous à la Bible. Limitons-nous aux Écritures. Parce que c'est la parole qui est une lampe. Cette lampe qui nous tient éclairés, n'est-ce pas? Parce que quand vous vous promenez, c'est au milieu de la nuit, cet appel, les vierges. C'est au milieu de la nuit. Quand, au milieu de la nuit, vous devez marcher sans lampe, vous n'êtes pas sûr de là où vous allez. Vous commencez à tâtonner. Dites amen à ça. Amen. On connaît plus ou moins par cœur la disposition de cette salle. Mais si on éteint partout ici et qu'il fasse nuit, ben, malgré qu'on connaît par cœur, on ne va pas marcher avec assurance comme en pleine lumière. On va marcher avec les mains sur les chaises, en tapotant des chaises. Là, on sait qu'on est au milieu de l'allée. Et puis, lorsqu'on arrive à la dernière chaise, on tâtonne encore, on touche le ventilateur. Ah, on sait qu'on doit tourner un peu à gauche. Mais quand la lampe est allumée, c'est avec assurance que je marche. Et cette lampe, c'est la parole. Et la parole prophétique que nous avons reçue, c'est elle qui nous conduit. Nous n'allons pas en tâtonnant. Jusqu'à l'enlèvement, nous y allons de manière sûre. Dites amen à ça. On commence à tâtonner lorsque des doctrines commencent à s'ajouter. On ne fait peut-être pas grand-chose, peut-être entre guillemets grand-chose, grand-chose de mal, mais on est en train d'obscurcir notre lampe en rajoutant des choses. Prenons la problématique des tonnerres. Moi, j'ai vécu, un frère qui était parmi nous, il a voyagé, il n'est plus ici, il est parti du côté de l'Amérique là-bas. Le frère a été sérieusement ébranlé lorsqu'il rencontrait les frères qui croyaient en la doctrine. Mais j'essayais chaque fois de lui dire, écoute, tant que ce n'est pas écrit, ne t'en fais pas. Dieu ne viendra pas te surprendre comme un prof surprend certains étudiants qui ne viennent pas au cours, n'est-ce pas? Et il les surprend, sachant que l'étudiant ne vient jamais au cours, il les surprend sur quelque chose qu'il a dit au cours comme ça, que lui n'a pas entendu, et que ce n'est pas écrit dans son syllabus. Non. Dieu ne va pas te surprendre là-dessus. Le problème, c'est de te poser la question, que dit l'Écriture? J'écoutais encore cette prédication ce matin. Dieu est son propre interprète. Quand il dit « la Vierge enfantera », vous n'avez pas besoin de tâtonner, de dire « ça va se passer comment ?» Non, attendez seulement l'accomplissement. Amen. Quand ça va s'accomplir, l'ange va venir. Il viendra vous annoncer « voilà, écoute Marie, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre et l'enfant qui naîtra sera appelé Jésus. » Ouais. Et étant donné que c'est écrit, Marie n'a pas tâtonné. Elle a dit, je suis la servante du Seigneur. Ouais. Et justement, dans 2 Pierre, chapitre 1er, verset 15, toujours on parle de départ. Même au verset 14, Pierre dit, je sais que je quitterai cette tente subitement, ainsi que notre Seigneur Jésus-Christ me l'a fait connaître. Mais j'aurai soin qu'après mon départ, vous puissiez toujours vous souvenir de ces choses. Il était sûr de ce qu'il avait enseigné. Quand bien même je m'en vais, sachez que ce que je vous ai dit, c'est du vrai. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, l'enlèvement. Non, 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 non. Ce n'est pas comme ça, ce n'est pas des fables, mais c'est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux. J'ai vu ça. Ce que je vous dis, c'est sûr, c'est certain. Car il a reçu de Dieu le Père honneur et gloire, quand la gloire magnifique lui fit entendre une voix qui disait, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Nous avons parlé de cette Sainte Montagne la semaine passée. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. C'est certain. Vous ne vous êtes pas trompé en croyant à ce message du temps de la fin. On a essayé de vous embrouiller avec 1977. Ne vous laissez pas embrouiller. Ce message, c'est la vérité. S'il en est question là-dedans, de 1977, sachez ceci. Le messager lui-même a dit, c'est la Bible qui a raison. Si je dis une chose et que la Bible dit autre chose, prenez ce que la Bible dit. Si la Bible ne dit rien, ne rajoutez rien. C'est à cela que nous, donc, c'est à cela que l'on voit que quelqu'un est certain de ce qu'il fait, de ce qu'il attend. Il n'est pas ébranlé du tout. On peut lui amener toutes sortes de citations, hein, plus convaincantes les unes que les autres, mais il s'en tient aux Écritures. Et les Écritures, il ne faut pas les transformer. Si Dieu dit, vous serez enlevés, vous serez enlevés. Amen. Si c'est en esprit, il vous dira, vous serez enlevés en esprit. Mais il dit non. Vous serez changés et tous ensemble, vous monterez. C'est ce qu'il dit. Et nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Donc, vous n'allez pas à l'enlèvement en tâtonnant. Ce qui a été prédit, c'est en... Vous savez, vous êtes des enfants, des fils et des filles de Dieu. Vous avez une capacité que le monde n'a pas. Quand Dieu écrit sur le mur, ils peuvent voir, les incrédules peuvent voir, il y a une écriture sur la muraille. Ils sont en train de voir aujourd'hui que le climat en arrive à sa fin. Ils sont en train de voir aujourd'hui que beaucoup de choses arrivent à leur fin. Ils essayent de se battre disant on doit laisser à nos enfants un monde meilleur. OK, tout ça c'est très bien, mais ils savent que c'est quasiment inéluctable, ça va finir par arriver. Les cataclysmes dont ils ont peur, ça va finir par arriver. Même Los Angeles. Ils savent à Los Angeles. Eux-mêmes, ils vendent des t-shirts là-bas, ça se vend là-bas, hein, où c'est écrit sur le dos ou à l'avant, c'est écrit « Nous attendons le Big One ». Ils savent que ça arrivera. Mais ils ne sont pas sûrs si ça va arriver. Parce que s'ils étaient sûrs que ça arriverait, ils partiraient de là. Ouais. Nous savons qu'il y aura l'enlèvement. Et les événements modernes qui arrivent, les événements qui nous tombent dessus, en tout cas dans les événements du monde aujourd'hui, nous voyons vraiment, c'est l'écriture sur la muraille. Il y a un Saint-Esprit qui vous aide à interpréter cela et vous montre que nous sommes quasiment proches de ce jour-là. Et plus on avance dans ça, plus le monde s'inquiète, mais plus moi, je suis heureux parce que je vois le jour s'approcher. Donc, vous faites bien de prêter attention. Donc, prêtez attention à cette parole prophétique. Prêtez-y. Prêtez vraiment toute votre attention. Soyez attentifs. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne apparaître et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Et le prophète de l'âge dit ceci, il dit que l'interprétation d'une prophétie, c'est son accomplissement. C'est Dieu, quand Dieu accomplit la chose qu'il a dit qu'il accomplit, qu'il ferait, quand Dieu le fait, c'est là que c'est l'interprétation. C'est ce que Dieu voulait dire. Quand il a dit que la Vierge enfantera, la Vierge a enfanté. C'est exactement ce que Dieu voulait dire. Attendez seulement et vous verrez ce que c'est. Alors maintenant, pour ce qui est des tonnerres, l'accomplissement, ce sera, ne vous battez pas pour l'interprétation des tonnerres. Même si quelqu'un vient vous dire, tu sais frère, c'est selon telle brochure, tel ceci, tel cela. Tout ça, ce sont des interprétations humaines qui passeront. Mais l'interprétation de Dieu ne passera pas. La Bible dit que les sept tonnerres vont parler. Comment est-ce que toi, tu peux interpréter ce qu'ont dit les tonnerres avant même que les tonnerres n'aient tonné? Puisque ça ne tonnera que quand... Jean dit hein, dans Apocalypse 1er que ce sont des choses qui doivent arriver bientôt. Donc du temps de Jean, ce n'était pas encore arrivé. Si Jean a entendu cela, c'est parce qu'il a été projeté dans le futur. Et il a vu ce qui allait arriver. Alors, quand est-ce que ces tonnerres ont parlé? Attendez, dans Apocalypse 10, nous voyons, « Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Quand il cria, les sept tonnerres firent entendre leur voix. » Donc, pour que les tonnerres tonnent, pour qu'on les entende pour la première fois, ces tonnerres-là, il faut que l'ange vienne avec le livre ouvert, posant son pied droit sur la mer, son pied gauche sur la terre, et crier d'une voix forte. C'est seulement à ce moment-là que les tonnerres vont effectivement tonner. On va les entendre. Alors, c'est à ce moment-là que l'interprétation de ce qui a été dit dans les sept tonnerres, que vous aurez l'interprétation. Comment voulez-vous avoir l'interprétation alors que cela n'a pas encore parlé? Oui. Et c'est bien dit, quand les sept tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendais du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les sept tonnerres et ne l'écris pas. Il a scellé ça où? Dans sa tête. Hein. Il a entendu ça. Jean n'en a jamais parlé par après. Peut-être il en a parlé en privé, mais ce n'est pas écrit. Comme ce n'est pas écrit, attendons. Attendons que cela arrive. Si vous êtes emporté à tout vent de doctrine, c'est que vous n'êtes pas sûr de votre salut. Vous n'êtes pas sûr de votre enlèvement. Mais ce que j'ai à vous dire, c'est que Dieu ne peut pas vous mentir. Il ne peut pas vous donner une fausse promesse. Nous ne voulons pas être là à tout vent de doctrine, mais nous voulons rester fermes, n'est-ce pas? Ayant reçu cette assurance que, effectivement, nous serons enlevés. Et Kisarab, la prostituée, elle a demandé cela. Elle savait que les enfants d'Israël allaient tout détruire à Jéricho, qu'ils allaient détruire tout sur leur passage. Alors, elle va demander une chose. Elle va dire dans Josué 2, verset 12, d'abord verset 11, nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Oui, quand les gens sont abattus, c'est comme ça. Ils sont tantôt à gauche, à côté, tantôt à gauche, tantôt à droite. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Jurez-moi, parce que c'est un peuple qui a une loi, qui a appris, n'est-ce pas, de ne pas mentir, de ne pas donner de fausses promesses. Que leur Dieu leur a interdit cela. Donnez-moi l'assurance que je sois certaine que vous laisserez vivre mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent, nous sommes prêts à mourir pour vous si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté et fidélité. Effectivement, quand les murs de Jéricho se sont effondrés, tout est tombé, mais la maison de Rahab a été épargnée. Dans Josué 6, on voit Josué, verset 22, Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays, entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tous ceux qui lui appartiennent, comme vous le lui avez juré. Ici, c'est le serment des hommes. À combien plus forte raison le serment de Dieu peut tenir? Si Dieu a juré par lui-même, mais soyez certains, soyez assurés. Les jeunes gens, les espions entrèrent et firent sortir Rahab, donc son père, sa mère, ses frères et tous ceux qui lui appartenaient. Exactement comme ils ont juré, ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposèrent hors du camp d'Israël. Oui, alors ils ont brûlé la ville. Et c'est pareil pour vous. Avant que cette terre, ce grand jour redoutable n'arrive, nous avons cette assurance que Dieu nous enlèvera d'abord de cette terre. Quand il nous enlèvera de cette terre, c'est alors que les Satans d'eux vont commencer à voler par-dessus les têtes des gens. Nous avons cette assurance que ces choses n'arriveront pas, même si, tant que nous sommes ici, même si ça semble être imminent, mais il y a un Saint-Esprit qui les retient. Tant que le Saint-Esprit est là, ça les retient et ils ne bougent pas. Mais partons seulement avec le Saint-Esprit et je plains ceux qui resteront sur la terre. Frère François, es-tu sûr de ce que tu racontes? Je n'avais jamais vu quelqu'un de plus sûr que moi. Sinon, je ne vous le dirai pas ce soir. Que cette Bible, c'est la vérité. Et ce n'est pas en vous racontant des choses que d'autres ont vécues, mais c'est en vous racontant des choses que moi-même j'ai vécues. Et je suis sûr que vous êtes là ce soir. Non pas parce que Frère François vous a raconté des choses, mais parce que vous-même, vous avez vécu, vous avez expérimenté que cette Bible est la vérité. C'est notre assurance. Et alors, quand nous nous réunissons, nous prenons toujours comme base notre Bible. Amen. Et que Dieu vous bénisse. L'assurance que vous aviez au commencement, gardez-la bien fermement. Ne la perdez pas. Les temps sont mauvais. Les temps sont difficiles. C'est vrai. Mais tenez-y. Tenez fermement. C'est la foi, en fait. Parce que la foi est une ferme assurance. C'est une assurance qu'on ne perd pas comme ça au premier choc. Non, c'est une foi que l'on garde. C'est une assurance que l'on garde fermement malgré les chocs, malgré les coups.
Alléluia.
Que Dieu vous bénisse. Prions le Seigneur. Prions seulement. Père Céleste, après tous les coups par lesquels nous sommes passés, comme tous les coups, comme l'a dit l'apôtre, nous tenons toujours fermement cette assurance, la foi des promesses que tu nous as faites, l'assurance des choses qu'on espère, démonstration des choses qu'on ne voit pas. Et nous voulons tout simplement te dire merci pour cette foi que tu as placée dans nos cœurs. Paul a combattu le bon combat. Il a eu des coups, il a supporté des souffrances et toutes ces choses. Il est passé par des persécutions, mais il a gardé la foi, cette ferme assurance. Nous voulons aussi la garder. Nous ne voulons pas faire naufrage à la foi. Certains ont fait naufrage à la foi à cause des coups qu'ils ont reçus dans la vie, à cause des déceptions qu'ils ont dû endurer, à cause de la séduction de beaucoup, à cause de plusieurs raisons. Mais bonne raison de tenir ferme, c'est ta parole qui ne change pas, qui demeure toujours la même. Oh, telle qu'elle a été prononcée au commencement, telle elle se présente encore aujourd'hui. Certains disent du Moyen Âge, mais nous savons que c'est pour les choses présentes et pour les choses à venir. C'est aussi pour les choses passées. Tout cela fait que cette parole demeure et n'a jamais changé. La science change, les livres de science évoluent, mais la parole de Dieu, elle est parfaite, elle n'évolue pas, elle demeure toujours la même. Ce qui était mal au commencement reste mal encore aujourd'hui, à la fin des temps. Ce qui était bien au commencement reste bien à la fin des temps. Sois béni, Père, sois loué, bénis tes enfants. Et maintenant que la secousse est là, que les secousses sont arrivées, sont passées, nous te disons merci de nous avoir gardés fermement. Malgré qu'on a été secoués, nous sommes restés entre tes mains. C'est parce que tu nous as tenus fermement et tu as béni. Si nous avons lâché quelque peu prise, toi tu nous as gardés quand même dans ta main. Merci pour toutes choses, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour tout ce que tu fais encore pour nous redresser. Si nous sommes chancelants, que nous soyons fermes encore sur nos deux pieds. Maintenant, il y a ce jour que tu as fait et certains ont prévu de se réunir encore. D'autres, ô Dieu, vont rentrer. Que chacun, selon les occupations qu'il aura, qu'il puisse rester toujours ferme dans cette foi, dans les bons et les mauvais jours. Béni sois-tu. Accompagne chacun là où il doit aller. S'il y en a qui doivent rester, que tu restes avec eux. Ceux qui doivent partir, pars avec eux. Et si tu tardes à venir, jour du dimanche, que nous puissions encore nous rassembler en ce lieu. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons prié, nous l'avons demandé. Amen. Dieu vous bénisse.